Je vais vous lire un passage dans l'Épître aux Hébreux, en sachant que le message que je vais vous apporter est bien imparfait, parce que la semaine dernière, j'avais eu à cœur, je reprends en fait le message que j'ai apporté la semaine dernière à nos frères et sœurs à Crozant, et j'avais été inspiré à ne pas apporter un message d'exhortation, mais de revenir à ce qui est le fondement de notre salut, c'est-à-dire le sang de Christ. Tout simplement, la valeur du sang de Christ, en parlant d'abord de la valeur du sang. Et donc je reprends ce message, un peu étude biblique, qui comprend des imprécisions, mais dont l'essentiel, je pense, va aller jusqu'à vos cœurs. Seigneur Dieu, nous sommes devant toi, devant ta parole. Que tu viennes maintenant, Seigneur, par la puissance de ton Saint-Esprit, appliquer ta parole à nos cœurs. Que tu viennes nous instruire, nous édifier, nous donner, Seigneur, toute la compréhension, cette parole de salut qui vient toucher nos âmes. Amen. Je lis Épître aux Hébreux, chapitre 10, versets 1 à 10. En effet, la loi, qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, puisque ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché, les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit « Voici, je viens ». Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Dans ce passage, il n'est pas question du sang, mais le sang intervient justement après cette offrande faite une fois pour toutes. Le sang, c'est ce qui circule dans nos veines. Il est fait pour cela, pour circuler dans le corps. Je ne vais pas vous apprendre grand-chose là, parce que vous avez tous fait les cours de sciences élémentaires, hein, qui montrent que les échanges se produisent en permanence à travers le sang et permettent la vie du corps. Vous avez certainement à l'esprit cette image de la poitrine avec d'un côté le sang bleu, de l'autre côté le sang rouge, hein. Et voilà, et tout ce qui est impur dans le sang passe, et puis à travers les poumons, ce qui est rejeté, et le sang se charge d'oxygène et se purifie, et ainsi de suite. Et donc l'eau et l'air sont les alliés du sang, bien sûr, pour le fonctionnement immédiat de tous les organes. Et puis il y a ensuite la nourriture qui vient apporter les différents éléments pour maintenir la vie. Donc le sang nourrit et purifie. Et à lui seul, il contient toutes les caractéristiques et la puissance d'une vie. En fait, chacun a son propre sang. C'est d'ailleurs avec précaution que les transfusions sanguines se font, parce que voilà, chaque sang a ses caractéristiques. J'étais un peu novice, quoi, mais quand on a voulu me faire faire une prise de sang pour regarder si, dans les 3 mois précédents, j'avais eu du diabète à un moment donné. Comment, avec une prise de sang, on peut détecter ce qui s'est passé 3 mois en arrière? Vous voyez qu'il y a vraiment dans le sang un secret, donc une mémoire, etc. Et on trouve des traces donc de maladies, etc. Qui, si elles étaient donc détectées à temps, pourraient permettre de soigner davantage, etc. Le sang est très, très, très précieux. Sans lui, il n'y a pas de vie, tout simplement. Et ce qui s'est passé, c'est que la première atteinte à la vie humaine a produit une effusion de sang. Le premier sang qui a été versé, celui d'Abel, par le meurtre de son frère Caïn. Et c'était un sang que le Seigneur regardait comme très précieux, puisque, pour reprendre Caïn, chapitre 4 de la Genèse, verset 10, le Seigneur lui dit: qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Il ne dit même pas l'âme de ton frère crie à moi, il dit la voix du sang de ton frère. Comme quoi le sang est caractéristique de toute la vie d'une personne. Ce qui est rappelé au chapitre 9 de la Genèse, puisque alors même que le Seigneur permet à Noé et à donc toute l'humanité après lui de se nourrir de la chair des animaux, il leur demande de ne pas manger la chair avec son âme, avec son sang. Alors âme traduit le plus souvent maintenant par vie dans les nouvelles traductions. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal, je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Je redemanderai le sang de vos âmes. La vie est tellement précieuse aux yeux du Seigneur, et toutes les caractéristiques de cette vie et qui permettent cette vie sont dans le sang. Donc la vie de l'animal doit même être respectée à travers le sang qui n'est pas mangé, en fait. Et puis surtout, la vie de l'homme doit être respectée parce que son sang appartient au Seigneur. Sa vie appartient au Seigneur. Nul ne peut disposer de la vie de son semblable. Dans le Lévitique, il y a les sacrifices, mais pour qu'un sacrifice soit valable et efficace, il fallait que le sang de l'animal soit versé et qu'il serve ainsi d'une façon bien spéciale. Lévitique 17, versets 10 à 14. Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang, et je le retrancherai du milieu de son peuple. Car la vie de la chair est dans le sang, je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes, car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang, et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de poussière, car la vie de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car la vie de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Dans la loi d'Israël. Hein. Mais la parole qui est centrale ici, c'est « Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes, car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. » Le corps de l'animal mort ne suffisait pas. Il fallait que son sang soit versé, répandu sur l'autel ou sur les cornes de l'autel. Et c'est le sang répandu qui faisait l'expiation, c'est-à-dire qui couvrait le péché. Alors, il ne faut pas beaucoup de sang, puisque par exemple, dans le Lévitique, toujours au chapitre 4, versets 25 et 26, il y a différentes opérations avec le sang. Il y avait le fait d'asperger le sang. Mais il y a donc cette mention, Lévitique 4, 25 et 26. Voilà, j'y arrive. Alors il posera le sacrificateur, par exemple 22. Si un chef qui a péché en faisant involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, son Dieu, des choses qui ne doivent point se faire et se rendre ainsi coupable, et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice un bouc mâle sans défaut. Il posera sa main sur la tête du bouc, qu'il égorgera dans le lieu où l'on égorge les holocaustes devant l'Éternel. C'est un sacrifice d'expiation. Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime expiatoire, il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes et il répandra le sang au pied de l'autel des holocaustes. On ne va pas détailler toute l'opération des sacrifices avec la graisse aussi qui devait être brûlée, etc. Mais ici, c'est simplement que, voilà, juste un peu de sang sur le doigt et mis sur la corne de l'autel suffisait. C'était un témoignage de la vie donnée. Et ce sang était efficace pour permettre l'expiation, c'est-à-dire l'effacement de la faute du coupable. À la première Pâque, bien sûr, vous savez très bien ce qui s'est passé, c'est que le Seigneur a demandé de préparer le repas, de sacrifier l'agneau, un agneau sans tache, sans défaut, pour pouvoir manger donc le repas, mais le sang de l'agneau a été recueilli et a été placé sur les linteaux de la maison. Et c'est en voyant le sang que l'ange est passé par-dessus les maisons pour épargner les enfants d'Israël. Donc il y a chaque fois aspersion du sang, ce qui permet d'ailleurs à l'apôtre Pierre de dire aux chrétiens, d'écrire aux chrétiens en leur disant « Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, à ceux qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. » Mais voilà, le sang des animaux n'était pas suffisant. Il mettait en évidence, il rappelait en permanence en fait le péché des hommes et la nécessité d'une vie donnée. Tandis que le passage, ici, que nous avons lu, nous permettent de comprendre que le sang de Jésus-Christ a été versé une fois pour toutes pour que nous soyons purifiés, délivrés de toute culpabilité. Alors, il y avait aussi quelque chose dans la loi, je passe un aspect que j'avais écrit, c'est que, oui, je vais reprendre dans Hébreux, chapitre 9, à partir du verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Il y avait aussi, en même temps que l'aspersion du sang, il y avait aussi l'aspersion de l'eau purificatrice, donc avec la loi de Moïse, et cette eau était faite en fait avec la cendre mélangée, enfin, la cendre d'une vache qui avait été donc offerte en sacrifice et brûlée. La cendre de cette vache était mélangée à l'eau et ça servait également à la purification du péché. Il y avait donc le sang et l'eau, mais l'eau imprégnée de la mémoire du sacrifice, d'une vie donnée, qui permettait la purification du péché. Et lors de la mort de Christ, il y a cette mention par Jean, à partir du verset 32, alors non, 30-31, c'est dans la crainte que les corps ne restent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation et ce jour de sabbat était un grand jour. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompe les jambes aux crucifiés et qu'on les enlève. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. Geste qui avait comme but d'accélérer la mort, en fait, puisque en ayant les jambes bien constituées, ben les prisonniers essayaient de s'appuyer, de retenir leur corps pour ne pas étouffer. Et ils pouvaient agoniser comme ça très, très longtemps. Et là, donc, les deux ont eu les jambes brisé pour pouvoir mourir plus vite et qu'on les enlève de la croix. Les soldats vinrent donc, ils rompirent les jambes à l'un puis à l'autre. S'étant approchés de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai, et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'Écriture soit accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs, l'Écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Donc, la parole s'est accomplie, la parole prophétique, qui n'a pas permis que les os du Seigneur soient brisés. Mais par contre, qui a permis que son côté fût percé et qu'il en jaillisse du sang et de l'eau. Donc ce sang qui couvre le péché et cette eau qui purifie, en fait, les deux opérations en même temps à cause de la mort de Christ. Et le Saint-Esprit peut appliquer ainsi à nos consciences l'efficacité de la mort de Christ qui a été dûment constatée. Christ est mort et c'est sa mort qui efface le péché devant Dieu. Le sang et l'eau viennent comme signe et pour nous appeler à et nous permettre de croire afin que vous croyiez aussi, dit l'apôtre Jean, que cette offrande faite une fois pour toutes a été efficace et que tous ceux qui croient peuvent en bénéficier. Il faut aussi, dit dans la suite d'Hébreux 9, l'apôtre, c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, verset 15, afin que la mort intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis, car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Donc le sang témoigne que la vie a été donnée. Il a fallu d'abord la mort de Christ. C'est sa mort qui nous sauve. Et s'il y a eu cette mort, c'est parce que le Fils de Dieu se donnait, livrait sa vie. Et c'est là qu'on revient à ce passage initial. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Et j'ai dit, voici, je viens pour faire au Dieu ta volonté. C'est-à-dire pour s'offrir. Chose que ses disciples avaient eu du mal à comprendre d'ailleurs. Il faut que le Fils de l'homme aille à Jérusalem, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. À trois reprises, le Seigneur a dû les enseigner à ce sujet parce qu'ils ne comprenaient pas. Mais pour Christ, c'était là, et il le savait, sa mission. D'où la raison pour laquelle il a refusé, lorsque certains, la foule qui était enthousiasmée par les succès, par les guérisons, par les miracles que Jésus accomplissait et qui voulait le faire roi, et qu'il a d'ailleurs acclamé comme roi, mais le roi débonnaire qui entre sur un ânon à Jérusalem. Jésus a été acclamé comme roi, mais il ne voulait pas seulement l'acclamer comme roi, à un moment donné, il voulait le faire roi. Et là, Jésus s'est écarté, n'a pas voulu, bien entendu, parce qu'il savait qu'il fallait qu'il donne sa vie, son corps, que dans son corps, il prenne le péché des hommes, alors qu'il était encore conscient, alors qu'il était encore vivant, qu'il prenne ce péché, qu'il l'expie par ses souffrances, et qu'ensuite, ayant accompli le don de sa vie à la croix, eh bien, il meurt, que son offrande soit scellée par la mort et que son sang soit répandu en témoignage. C'est vraiment un acte volontaire du Fils de Dieu que de donner sa vie en sacrifice de rédemption pour le péché. Voici, je viens pour faire ta volonté. Et c'est comme cela que, même si c'est cité en avant dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2, il peut dire ensuite, en retournant au ciel, « Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés, parce qu'il a racheté par son sang des hommes de toute nation, de toute tribu. » Et c'est à cela que je voulais vous venir, bien sûr, ensuite, à citer tous ces passages que l'apôtre, que les apôtres donc donnent en s'appuyant sur le sacrifice de Christ et qui parlent de son sang efficace. 1 Pierre, chapitre, je reprends donc Pierre qui nous a dit que participons à l'aspersion du sang de Christ, eh bien, bien sûr, au verset 18 et 19 de ce premier chapitre. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, qui l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Je dis quand même la suite parce que la conséquence est là, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Puisque maintenant vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. À partir du sang de la croix, de la résurrection de Jésus-Christ, il y a cette nouvelle vie, cette régénération, cette semence de la parole de Dieu qui vient changer complètement notre cœur et qui nous fait entrer dans l'amour. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. Mais voilà, vous avez été rachetés par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Plusieurs passages des Épîtres donc nous font comprendre qu'en fait, ce n'est pas du tout une surprise pour Dieu. Le péché est le moyen de la rédemption. Dieu n'a pas improvisé la rédemption. Elle était prévue, elle était dans son cœur, avant même qu'il ne crée le monde. Le Fils, dans la communion du Père, était prêt à ce sacrifice, à donner sa vie en rédemption des péchés. Apocalypse, bien sûr, chapitre 1, verset 5. Dès le départ, le message aux sept églises, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Est-ce qu'on dit Amen ensemble? Amen. Chapitre 4, même au 5, oui, chapitre 5, verset 9, la grande foule. 8. Quand il eut pris le livre, puisque personne n'était digne d'ouvrir le livre ni d'en rompre les sceaux. Mais voilà, celui qui était au milieu du trône, comme un agneau immolé, qui avait sept cornes et sept yeux, vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints, et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation, et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. La louange universelle envers l'agneau qui a donné sa vie, qui a été sacrifié pour la rédemption. L'Église est constitué de ceux qui sont rachetés par le sang de Jésus-Christ. Il est dit au sujet de l'Église, que Christ se l'est acquise par son propre sang. L'Église, c'est vraiment la nouvelle humanité, l'épouse de Jésus-Christ, qui a été achetée au prix du sang de son Sauveur. Alors, maintenant, il s'agit d'accepter, de recevoir, de vivre dans la foi en ce sacrifice et de rester en communion avec le Fils de Dieu. L'apôtre Jean, dans sa première épître, bien sûr, verset 5, chapitre 1, « La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Voilà la valeur du sang et de Christ qui témoigne de sa mort volontaire, de l'offrande de sa vie. Et dans ces heures de souffrance, là, après qu'il ait dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? T'éloignes-tu de moi sans me secourir ?» Psaume 22. Après qu'il ait dit ces paroles, il a réellement porté dans son corps nos péchés sur le bois, au point qu'il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Il ne pouvait plus briller la lumière de Dieu à ce moment-là. C'était le temps des ténèbres. Et la lumière a reparu après l'expiation du péché, après la mort de Christ et surtout, bien sûr, à la résurrection, où là, c'est la joie du salut qui peut être exprimée. Et le Seigneur premier ressuscité d'entre les morts, eh bien, offre cette vie de résurrection à tous ceux qui bénéficient du sacrifice de la croix et qui croient en l'efficacité de son sang versé une fois pour toutes. Amen.